Mon message cet après-midi, c'est Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans notre vie. Et cette image que j'avais pour introduire mon message, c'est quand vous... Je l'ai souvent vu dans les films parce que je ne l'ai jamais vécu en vrai. Mais je n'aimerais pas le vivre en vrai. Vous savez, quand quelqu'un arrive et qu'il est tellement amoché qu'on a l'impression qu'il est en train de partir et on met des machines sur lui et sur la, à côté de lui, il y a une machine qui est en train de dire qu'il est vivant. Et au fur et à mesure, ça commence à baisser. Ça commence à baisser et à un moment, ça va tout droit. Ça vous dit quelque chose ou pas? Et qu'est-ce que le docteur dit? Le docteur dit c'est... Et la chose maintenant, la plus grande maintenant pour le docteur, ce n'est pas de voir que c'est fini, mais c'est d'annoncer à la famille que c'est fini. Et vous imaginez maintenant la famille dans la salle d'attente, en train d'attendre un espoir, en train d'attendre quelque chose pour dire « ma personne est encore là » et que le médecin, ce qu'il va dire à la personne, que c'est fini. Mais alors, ce que j'ai envie de vous dire cet après-midi, c'est que pour le médecin des médecins, ce n'est pas encore fini. Qu'importe les circonstances qu'on peut traverser, qu'importe les circonstances qu'on peut endurer, et même si le médecin de l'hôpital a dit que c'est fini, mais mon message cet après-midi, c'est que le grand médecin a dit, ce n'est pas encore fini. Parce que si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'il a encore quelque chose à nous dire, quelque chose à faire avec nous. Et nous allons voir l'histoire de quelqu'un. Il se nomme Jephté, pour qui un jour, le médecin est venu dire, Jephté, pour toi, la vie ne serait plus comme avant. Nous allons lire ensemble dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, au chapitre 11, verset 1. Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephté. La femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephté et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Il dit à Jephté, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephté répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephté, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephté répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephté, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephté partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mizpah toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Amen. Voici quelqu'un, du jour au lendemain, on lui dit, tu es chassé de la maison. Waouh. On lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es sans père, sans repère, sans famille. Tu vis où? Tu vis dans la rue. J'espère pour lui qu'il n'était pas en France. et que ce n'était pas le mois de décembre. Du jour au lendemain, il n'a plus de famille, il n'a plus d'avenir, il n'a plus rien du tout. Quand je me pose la question, je dis, mais quel genre de frère Jephté avait? Mais on a dit à Jephté, tu es le fils de la prostituée. Tu n'es pas le fils de notre père. Mais on te voit comme le fils de la prostituée. Tu n'es pas celui qu'on voulait. Tu n'es pas comme on voulait. Et ils l'ont chassé de la maison. Moi, je ne crois pas que Jephté s'attendait à ça. Moi, je ne crois pas que beaucoup de personnes, quand ils traversent des circonstances de la vie, s'attendaient que la vie devait les secouer. Mais pour ses frères, ça en était fini pour lui. Pour ses frères, il disait peut-être, on ne dira plus que dans notre maison, il y a le fils de la prostituée. Voilà, on a enlevé de notre maison le fils de la prostituée. Voilà, on a enlevé de notre maison le problème. Voilà, j'ai enlevé ma vie, de ma vie le problème. Parce que pour certains, on était un problème. Parce que pour certains, on était celui qui dérangeait. Et Jephté, on l'a enlevé. Parce qu'on a cru enlever le problème. Je ne sais pas comment il est parti. Mais pour ma part, je n'aimerais pas être à la place de Jephté. De quelqu'un qui avait un avenir, qui avait une famille, un père, qui avait tout. Il se retrouve à être quelqu'un qui n'a plus rien et qui est obligé d'aller mendier pour pouvoir vivre. Mais ce que Jephté ne savait pas, c'est que Dieu avait un plan pour lui. Malgré l'injustice qu'il vivait, malgré les difficultés qu'il vivait, malgré les souffrances qu'il vivait, Dieu avait un plan pour lui. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes là et que vous dites, mais moi, ce n'est pas l'injustice que je vis, mais c'est que moi-même, je me suis traîné dans les propres problèmes qui m'ont amené à réaliser que mon avenir était troublé. Je me suis traîné dans des endroits où je n'aurais pas dû être. J'ai mené ma vie comme je n'aurais pas dû la mener. Et voilà pourquoi, Wilson, je suis dans ces problèmes-là. Voilà pourquoi je suis dans ces difficultés-là. Vous connaissez l'histoire de Jonas? On va le lire ensemble. Jonas au chapitre 10, verset 16. Jonas était un homme qui avait été appelé de la part de Dieu. Un homme qui avait été oint par Dieu. Il était appelé le prophète de Dieu. Jusqu'à ce jour où Dieu va envoyer, Jonas fait une mission. Une mission qui ne va pas correspondre à Jonas. Et en tant qu'un être humain comme beaucoup d'entre nous, il a dit à Dieu, moi ça ne me plaît pas. Moi, je préfère aller là où il n'y a pas de soucis, où il n'y a pas de problème. Et dans ce chemin, il a croisé que des problèmes, que des ennuis. Et il s'est mis dans des problèmes et il s'est mis dans des ennuis. Jonas, chapitre 10, verset 16. Chapitre 1, verset... Ah, savez que vous suivez, c'est bien. Donc Jonas, chapitre 1, verset 16. Parce que personne n'a rien dit, hein, j'ai dit. Jonas, chapitre 1, verset 16, dit ceci. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Mais pourquoi ces hommes ont été saisis? C'est parce que déjà, ils avaient peur. Ils avaient peur pourquoi? parce que Jonas était en train de les traîner. Là où ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas traîner. Et ce qu'ils vont faire, ils vont prendre maintenant Jonas et ils vont jeter Jonas à l'eau. Et maintenant, quand ils jettent Jonas à l'eau, ils offrent des sacrifices en disant à Dieu, nous sommes innocents de cet homme. Nous sommes innocents des problèmes qu'il avait. Nous sommes innocents de sa désobéissance envers toi. Nous sommes innocents. Et pour eux, ça en était fini pour Jonas. Et comme on a vu au début, qui s'est mis dans les embrouilles? C'est Jonas lui-même. Qui s'est mis dans les problèmes? C'est Jonas lui-même. Et pour ces hommes, ils ont dit, mon gars, ton cas, il est grave. Et comme ton cas, il est grave, nous, on ne veut pas te traîner avec nous. Ah, on a des amis comme ça. Mon gars, ton cas, il est grave. Excuse-nous, on va faire la fête. Toi, que Dieu t'aide. Et ils sont partis, c'est sûr qu'ils ont dû parler, ce Jonas, après. Le pauvre. Il n'y a plus rien pour lui. Mais d'une part, c'est vrai. Jonas, dans le ventre du poisson, qui aurait pu imaginer qu'il pouvait encore voir un espoir pour lui. Nous voyons souvent nos amis. La pauvre fille, elle est tombée enceinte. Oh, la pauvre. Elle était chrétienne en plus. Il n'y a plus rien pour elle. Dieu dit, mais c'est faux. Le pauvre, il a bien commencé. Maintenant, il a fini dans la drogue. Mais il n'y a plus rien pour lui. Mais Dieu dit, c'est faux. Le pauvre, il a bien commencé. Il était un bon prophète. Mais aujourd'hui, il est en train de sombrer dans l'alcool. Et on dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, mais c'est faux. Dieu avait encore un espoir pour Jonas. Et de même que Dieu a encore un espoir pour quelqu'un aujourd'hui. Et dit qu'importe là où tu as traîné, l'amour pour Dieu ne dépend pas de là où nous on a traîné, mais dépend de ce qu'il a fait de nous et ce qu'il veut faire de nous. Et quand Dieu va aller chercher Jonas, pardonnez-moi, je n'aimerais pas aller chercher quelqu'un dans le ventre du poisson. Dieu va chercher Jonas dans les entrailles du poisson, là où ça ne sent pas bon. Donc ça veut dire là où personne n'aimerait aller vous chercher. Mais Dieu aimait tellement Jonas qu'il a dit à Jonas, si ces hommes t'ont laissé, parce qu'ils ont préféré garder leur vie, et dit à Jonas, il faut nous excuser. Nous, on aime la vie. Vous, vous aimez la vie, mais Dieu a dit, moi, j'aime Jonas. Si les autres vous ont laissé parce qu'ils voulaient garder leur statut, si les autres vous ont laissé parce qu'ils voulaient garder leur valeur, mais sachez que Dieu ne vous laissera jamais. Et Dieu dira, si humain est capable de laisser son propre enfant, moi l'Éternel, je ne te laisserai jamais. Vous voyez que de celui qui n'avait rien fait à personne, et même à celui qui avait causé le plus grand tort à Dieu, Dieu a toujours manifesté sa fidélité. Mais ce n'était pas pour que la personne puisse continuer à rester dans ce qu'il était. Pour que la personne puisse continuer à rester dans sa boue. Et ce que Jonas a fait, nous le lisons au verset, au chapitre 2. On dit, Jonas a pris conscience qu'il avait fait des mauvais choix. Jonas a pris conscience qu'il a marché là où Dieu ne marchait pas. Jonas a pris conscience qu'il a été là où Dieu n'était pas. Vous savez, on peut prêcher le plus bel évangile à quelqu'un, mais s'il ne prend pas conscience qu'il est sur le mauvais chemin, vous allez prier et jeûner, rien ne va changer. On se comprend ou pas? savait que la personne lui-même n'a pas été touchée par le Saint-Esprit qui lui a manifesté la présence de Dieu et qui lui a révélé que son état lui menait à la perdition. Vous allez beau le bousculer. Et voilà pourquoi souvent, dans nos familles, il y a des gens qui nous apprennent à manifester la patience, à manifester l'amour. Mais moi, je crois que ce jour où Dieu est venu dans la vie de Jonas, Jonas était prêt à reconnaître qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et moi, je crois aujourd'hui que quelqu'un aujourd'hui ici reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu et qu'il est sur un chemin qui n'honore pas et ni ne représente la personne de Dieu. Jonas va se tourner vers Dieu et il va dire ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer s'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Quel espoir dans le nom de Jésus-Christ. Quel espoir dans la présence de Dieu. Jonas a pris conscience. Et la première chose, il dit, j'étais dans la détresse. Il a reconnu que ça n'allait pas. Est-il un crime de reconnaître que ça ne va pas? Pardonnez-moi, je suis un Français, mais je n'ai pas la fierté du coq. Et quand ça ne va pas, je reconnais que ça ne va pas. Avons-nous reconnu que ça ne va pas? Il dit, j'étais dans la détresse. Et quand j'ai reconnu que j'étais dans la détresse, c'est à cet instant que j'ai invoqué l'Éternel. Oh, on ne fait pas l'inverse. Il y en a qui invoquent l'Éternel, mais qui n'ont pas pris conscience qu'ils étaient dans la détresse. Et ils disent, Dieu ne m'a pas répondu. Mais Dieu n'a pas répondu parce qu'on n'avait pas pris conscience du besoin dont on avait. Et quand on a pris conscience du besoin dont on invoque l'Éternel. Parce que l'Éternel est décrit aussi dans la Bible comme le médecin. Et Dieu dira, on ne va pas au médecin tant qu'on n'est pas malade. Et si je vais au médecin, médecin, je viens à toi. Mais quel est ton problème? Attends, je reviens. On s'est compris ou pas? Quand on va au médecin, on a pris conscience que ça ne va pas. Quand on va au médecin, on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir. Et Jonas dit, j'étais en train de mourir. Il n'a pas commencé à mourir dans le ventre du poisson. Il a commencé à mourir dès l'instant qu'il a commencé à refuser de faire la volonté de Dieu. On se comprend ou pas? On ne commence pas à mourir dès que les choses sont dévoilées. On commence à mourir dès qu'on commence à marcher dans la désobéissance. Voilà pourquoi on dit le péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'était pas parce que les gens étaient morts, mais parce qu'ils avaient commencé à marcher dans le péché. Avons-nous pris conscience? Oui, Jonas a pris conscience qu'il était en train de marcher dans ce chemin qui était loin de la face de Dieu. Il dit, j'étais invoqué, Père. J'ai crié à toi. Parce que Jonas savait que Dieu était le Dieu de miséricorde. Et il le dira plus tard. Il n'a plus regardé à son péché, mais il a appelé à la miséricorde de Dieu. Il a dit, Dieu, je t'en supplie, viens à mon secours. Oh, Dieu ne l'a pas rappelé ce qu'il avait fait. Il savait déjà. On se comprend ou pas? Ne rappelez pas à Dieu ce que vous avez fait. Il sait déjà. Mais criez et lui dites, Seigneur, tu sais que j'ai mal fait. Voilà pourquoi je t'invoque afin de revenir sur le chemin que tu as tracé pour moi. Il dit, et j'ai crié, Dieu a entendu ma voix. Quand un malheureux crie, l'Éternel, entend et il en délivre. Oh, si Jonas, qui voulait jusqu'à vouloir la vie de Ninive, la mort de Ninive, a été capable de pardonner et d'accepter, d'être pardonné, pardon, et d'être accepté par Dieu, à combien plus forte raison nous? Oui, de même que Dieu a entendu la voix de Jonas, de même Dieu va encore entendre la voix de quelqu'un cet après-midi. Et à la fin, il dira, tu m'as ôté des eaux, ce qui me conduisait à la mort, et tu m'as amené chez les vivants. L'Éternel est vivant, et il règne éternellement et à jamais. Et quand on parle du vivant, on parle de Jésus-Christ. Quand on parle du vivant, on parle de celui qui a payé à la croix pour nous, afin de pouvoir nous enlever de la mort pour nous amener à la vie. Et ce que Jonas a reçu ce jour-là, c'est ce que j'appelle la résurrection. Parce que lui-même, il dit, j'étais mort. Mort à mon péché et mort à ma situation. Les hommes avaient déclaré que pour moi, c'était fini. Mais quand est venu Dieu, tout a recommencé. Et tu m'as ressuscité. Et je suis quitté du pays des morts au pays des vivants. Dieu veut ressusciter nos morts. Ça veut dire que toutes ces situations qui étaient mortes dans nos vies, Dieu veut dire un dernier mot à nos situations qui pour nous sont tombées. De dire, si les hommes ont dit c'est fini, moi je vous dis, il y a encore un espoir. Et cet espoir, Jésus-Christ l'a donné un jour sur la terre. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Il y en avait une qui croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts et qu'il était capable de donner encore la mort à son frère. Et il y a l'autre qui est venue. Elle dit, Seigneur, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Après, Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est mort. Seigneur, le problème là, on n'a jamais pu résoudre ça ici là. Il sent déjà. Ça veut dire la situation, elle est morte. Personne n'a jamais fait ça. Oui ou non, c'est ça. Quand il dit, il sent déjà. Ça veut dire que la situation là, personne ne peut plus rien faire. Mais on dit, Jésus est la résurrection et là. À ce moment-là, elle ne réalise pas qui est là en face d'elle. Elle a cru que c'était encore les petits prophètes qu'elle a connus. Mais au lieu que c'était Jésus-Christ lui-même en personne qui venait dans sa vie, elle dit à Jésus, il sent déjà. Jésus, regarde, le médecin a dit c'est fini. Regarde, mon père a dit, je m'en sortirai jamais. Regarde, le professeur a dit c'est mort pour moi. J'ai connu un ami qu'un jour sa prof, on était à l'institut biblique ensemble, sa professeure lui a dit, pour toi, tu ferais jamais rien de ta vie. Parce qu'il était tellement délinquant que en lui, elle a dit, en face de lui, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Mais quand Jésus-Christ est arrivé dans sa vie, aujourd'hui, il prêche l'évangile. Pourtant, elle avait déjà dit des paroles. Des paroles qui le condamnaient. Des paroles qui disaient que pour lui, c'était fini. Et Marthe va dire sa vérité. Ça, on n'a jamais vu. Et Jésus lui dit, on va le lire ensemble. Dans Jean 11, au verset 39. Jean 11, verset 39. ôté la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il n'y a 4 jours qu'il est mort. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors. » Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et même maintenant, cette foule de filles dit maintenant, ôtez la pierre. Moi, je n'aurais pas été le premier à partir. Hein? Tu veux voir le miracle? Alors, ôte la pierre. Jésus aurait pu faire un miracle pour ôter la pierre. Mais il les a appelés, eux, à manifester leur propre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À la suite, il dit, ôte la pierre. Et moi, je me mets à la place et dis, si j'ôte la pierre et que rien ne se passe, je fais comment? Elle a dit, ça fait 4 jours qu'il sent déjà. Jésus, tu m'amènes dans les choses que je n'ai jamais vues. Jésus, tu m'amènes dans les choses que je n'ai jamais entendues. Jésus, tu m'amènes dans l'expérience que je n'ai jamais faite. Jésus dit, oui, je sais. Il dit, mais n'est-il pas écrit que tout est possible à celui qui croit? Vous le confessez ou pas? N'est-il pas écrit que tout est possible à celui qui croit? Il dit maintenant, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il dit, si tu crois, alors ôte la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est toutes les choses que nous n'avons jamais vues. C'est toutes les situations où nous nous disons, est-ce que Jésus-Christ peut faire quelque chose? Jésus-Christ dit seulement une seule chose. Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Et la seule image que je veux donner pour illustrer juste quelqu'un qui a ôté la pierre. Je l'ai vu dans un film. On dit que c'est 2 personnes qui viennent mettre, qui viennent prier à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, envoie la pluie. Et des 2 personnes, après avoir prié, il se lève, il va commencer à faire les sions. Il dit des 2, qui a ôté sa pierre? Les 2 croyaient que Dieu pouvait envoyer la pluie. Mais des 2, il y en a un qui a manifesté la foi et l'autre qui est resté incrédule. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la foi, mais il n'avait pas assez une foi assez forte pour croire que Dieu était le Dieu de l'impossible. Croyons-nous que dans nos situations aujourd'hui, Dieu est capable de faire de grandes choses? Alors ôtons la pierre de l'incrédulité. Nous croyons que Dieu est capable. Alors posons nos jalons. Disons, Seigneur, les hommes m'ont dit autrement. Les circonstances me montrent autre chose. Ma vie me montre autre chose. Mes mauvais choix me montrent autre chose. Mais Dieu dit, les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais le projet de bonheur et de paix. Mais le chemin dans lequel je suis en train d'aller, c'est un chemin de malheur et de malédiction. Ça veut dire que ce n'est pas le chemin que tu as prévu pour moi. Seigneur, j'appelle à toi. Ramène-moi sur le chemin que tu as prévu pour moi, afin que je puisse vivre ce que tu as dit, le bonheur et la paix. Oui, le bonheur et la paix est possible. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ nous a donné le bonheur et la paix. Oui, le bonheur et la paix est possible. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Les erreurs du passé sont passées. Les nouvelles choses sont en train d'arriver. Souvent, je pleure sur les gens qui disent, mais tu sais, Wilson, avant. Mais avant, c'est passé avant. On vit maintenant. Et les gens disent, avant, pardonne-moi, ils sont en deuil. Ils pleurent sur le passé. Mais quelqu'un qui est en Christ ne pleure plus sur le passé. Je me réjouis du présent. Parce que dans le présent, Dieu a encore des grandes choses pour nous. Dans le présent, Dieu a encore des grandes choses pour la jeunesse de Nantes. Dans le présent, Dieu a encore des grandes choses pour l'église de Nantes. Dans le présent, Dieu a encore des grandes choses pour ma vie. Des projets de paix. Et non de malheur. Alors, si quelqu'un a besoin de ôter sa pierre, qui se lève et dit, Seigneur, les projets que tu as pour moi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Et qui se lève et dit, Seigneur, je veux ôter ma pierre. Je ne veux plus regarder aux circonstances, mais je veux regarder à Jésus-Christ. Je ne veux plus regarder à mon passé, mais je veux regarder à Jésus-Christ. Je ne veux plus regarder à ce que je n'ai pas, mais je veux regarder à ce que Jésus-Christ a pour moi. Pendant qu'on va prier, si vous êtes là dans la maladie et que le médecin a dit c'est fini, vous venez, on va prier pour vous. Je ne prie pas parce que j'ai envie de prier, mais je prie sur la parole de Dieu qui dit, priez pour les malades parce que le temps de la pierre est ôté. Et maintenant sur le temps de la foi, alors que sur votre chemin, Dieu ne trouve pas de pierres qui empêcheront que le miracle se manifeste. Et que par la foi, vous puissiez ôter la pierre afin que le miracle de Dieu puisse se manifester. Et ils ont appelé Jephté de dire, viens, règne sur nous. Jonas est parti annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Et aujourd'hui, je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, vous entrez dans la destinée qui est la vôtre. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu de gloire, Dieu de fidélité. De même que dans l'injustice ou dans le péché, tu manifestes ta grâce. De même, nous voulons encore, ce mon Dieu, confesser encore, ce mon Dieu, que tu es celui qui aura le dernier mot dans notre vie. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force et de courage. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, unis ici, ce mon Dieu, avec mes frères, nous voulons encore nous lever pour ôter les pierres de l'incrédulité qui nous empêcheront de croire que Jésus-Christ a le dernier mot dans nos vies. Et aujourd'hui, nous voulons abandonner, ce mon Dieu, tout ce qui, pour nous, sont des montagnes pour entrer dans la bénédiction que tu as réservée pour nous. Nous voulons abandonner, ce mon Dieu, tout ce qui nous paraît inaccessible, Seigneur mon Dieu, pour proclamer qu'au nom de Jésus-Christ, nous entrerons dans ta victoire, afin de marcher sur le chemin que tu avais tracé pour nous. Et de même, Seigneur mon Dieu, qu'un jour, tu as ouvert, c'est mon Dieu, la route au peuple, c'est mon Dieu, par Jéricho. Et de même aujourd'hui, tu vas renverser nos Jéricho. Oui, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, nous voulons ôter les pierres qui ne viennent pas de toi. Viens encore, Seigneur mon Dieu, que nous puissions encore réaliser, c'est mon Dieu, qu'en toi, nous avons tout pleinement. Béni sois-tu encore dans cette assemblée, Seigneur mon Dieu, qui désire encore te rencontrer et te voir encore, c'est mon Dieu, manifester le miracle dans sa vie. Oui, les morts vont ressusciter. Et de même que Lazare a ressuscité, de même quelqu'un ressuscite aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que les musiciens sont en train de jouer, si vous avez besoin de la prière, venez devant, on va prier pour vous. Dans le désir que vous puissiez ôter cette pierre qui vous empêche de croire que Dieu est capable de manifester le miracle dans votre vie.